Deuxième célébrité de cet après-midi de France Culture, Michel Foucault, interviewé par Paul Ajac au sujet de son dernier.
La persécution, c'est un peu comme l'amour. Elle n'a pas besoin de réciprocité pour être véritable.
Bonjour les amis du Book Club. Je viens de me replonger dans les entretiens radiophoniques de 1961 à 1983 de Michel Foucault.
Peut-être, en ce sens, toutes les entreprises pour faire parler le monde, que ça s'appelle le savoir ou la littérature, ont une profonde parenté avec la paranoïa.
C'est fou comment on peut se laisser happer par 900 pages de textes de pensée brute de manière aussi facile.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
De 1961 à 1983, le philosophe Michel Foucault est venu de très nombreuses fois dans le bâtiment où nous sommes ici, à la Maison de la Radio, pour participer à des émissions. Des émissions de toutes sortes, entretiens accordés à l'occasion de la parution de ses livres, conférences, débats, interventions. Retranscrite et rassemblée dans un livre, la parole qui s'y déploie donne à entendre la singularité d'une pensée vivante, érudite, bondissante et malicieuse, une philosophie incarnée. Frédéric Gros et Henri-Paul Fruchot en ont orchestré l'édition, ils sont nos invités. À 15h50, comme chaque jeudi, nous prendrons des nouvelles du livre Hors de nos frontières grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, Clémence Pénard, en direct depuis l'Irlande, nous parlera de la grande romancière Edna O'Brien. Comme chaque jour, nous jouerons pour finir à trouver de la musique dans un livre, pour nous quitter en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club et vive la radio! Et bonjour et bienvenue à vous, Henri-Paul Fruchot. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes philosophe, vous êtes aussi le neveu de Michel Foucault et son ayant droit, et donc le coéditeur de ce livre dont le titre exact est « Entretien radiophonique 1961-1983 ». C'est une coédition Flammarion, Vrin et l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et bonjour à vous Frédéric Gros.
Bonjour.
Merci aussi d'être là. Vous êtes philosophe, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'œuvre de Michel Foucault, auquel vous avez consacré de très nombreux travaux, et ce depuis des années, depuis votre thèse en réalité. Vous avez notamment dirigé l'édition de ses œuvres dans la Pléiade, mais aussi la publication de ses cours au Collège de France, au Seuil, entre autres. On en reparlera peut-être. Bienvenue à tous les deux. Commençons peut-être par le commencement, c'est-à-dire comment est née, quand et comment est née l'idée de rassembler dans un ouvrage la somme de ces entretiens. Entretien radiophonique, c'est le titre, mais comme je l'ai dit, en réalité, de toutes ces interventions radiophoniques qui sont de nature variée. Comment tout ça a commencé,
Henri-Paul Fruchot? En fait, c'est un projet qui a derrière lui une bonne dizaine d'années et qui a connu une vie assez mouvementée, on peut dire. Au départ, c'est une idée de l'INA, et plus précisément de Jean-Michel Rode, qui est décédé aujourd'hui, et qui était à l'époque directeur des collections de l'INA. Et l'idée était effectivement de... Alors, l'idée générale, c'était de publier avec des éditeurs des transcriptions, des principaux textes qui existaient dans les collections de l'INA. Et en particulier, de commencer par Foucault. Donc Jean-Michel Rode m'avait contacté, et nous avons eu une réunion où j'ai découvert le projet qui m'a... enthousiasmé, enfin énormément intéressé en tout cas, parce que je connaissais certaines émissions, mais il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas, et donc j'y ai mis mon nez, ou plutôt mes oreilles, et j'en ai découvert pas mal. Le projet au début a avancé assez vite, les transcriptions ont été faites, et puis on s'est heurté au problème qu'on n'arrivait pas à trouver d'éditeur. Ou plus exactement, un certain nombre d'éditeurs contactés étaient enthousiastes dans un premier temps, et puis se rendaient compte qu'il y avait un travail considérable, parce qu'il faut obtenir l'accord de tous les participants aux émissions, qui souvent étaient de la génération de Foucault, étaient décédés, donc retrouver les ayants droit, etc. Hein, et donc, le projet, il y a un moment où le projet pratiquement est tombé à l'eau. Et finalement, moi, je l'ai beaucoup regretté. J'en ai parlé avec Vrin. On a décidé de relancer le projet. Vrin, ouais. Mais Vrin s'est associé avec Flammarion et avec l'INA pour faire ce travail considérable d'obtenir les accords de toutes les personnes.
C'est-à-dire les retrouver, j'imagine, c'est un travail d'enquête.
C'est les retrouver et quelquefois négocier avec eux aussi.
D'accord.
Ce qui n'était pas toujours très très facile.
D'accord.
Enfin, ce travail a été fait et c'est ce qui a permis la parution de ce beau livre. Hein. Il y a quand même presque 1000 pages.
Absolument, presque 1000 pages. C'est un travail qui s'est étalé du coup sur combien de temps en tout ?
Moi, j'ai relativement peu travaillé dans la première partie. En revanche, j'ai refait toutes les transcriptions. J'ai ajouté des transcriptions d'émissions qui n'étaient pas dans le premier projet. J'y ai consacré au moins 2 ans.
J'ai dit que vous étiez l'ayant droit de Michel Foucault.
Je suis l'un des ayants droit.
L'un des ayants droit, pardon. Mais justement, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça recouvre comme mission, ce titre-là ?
Oui, alors vous me disiez tout à l'heure que j'étais philosophe. J'ai fait des études de philosophie, mais je me suis orienté ensuite différemment et j'ai fait toute ma carrière dans le monde bancaire, en réalité. Et ce n'est qu'au moment de ma retraite que je me suis remis à travers Foucault, un peu à la philosophie et à l'édition de ses œuvres. Je travaille quand même toujours en coopération avec les autres ayants droit, qui sont mes frères et sœurs, un de mes neveux, et puis la veuve du frère de Michel Foucault. Hein, mais de fait, c'est moi qui m'occupe de l'édition de ses œuvres.
Et donc, ça consiste à la fois à travailler à l'édition de ses œuvres, d'un livre comme celui qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi à donner votre accord pour des parutions.
Alors, ça consiste à donner les accords, tout à fait. Mais ça a surtout consisté à éditer notamment des conférences inédites, soit à partir des manuscrits qui sont disponibles grâce à la Bibliothèque nationale, soit à partir des enregistrements, et notamment de cours et de conférences qu'il a prononcés aux États-Unis dans les années 70-80, et qui étaient en grande partie inédits.
Et qui ont été publiés
chez Vrin. Chez Vrin, en collaboration avec Daniele Lorenzini.
Oui. Je
voudrais juste ajouter une chose, et il y en a probablement qu'on ne connaît pas encore, parce que il y a un peu plus d'un an, Daniele Lorenzini et moi avons découvert, mais tout à fait par hasard, à l'université de Buffalo, une série d'enregistrements. Il y a 20 heures d'enregistrements correspondant à un cours de Michel Foucault dont personne n'avait jamais parlé et qui devrait paraître chez Vrin en septembre prochain.
La question des archives de Foucault, de textes ou d'interventions de lui que nous découvrons après sa mort, c'est une vaste question en soi. Frédéric Gros, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot de ce problème-là qui se situe un petit peu sous l'égide, si je puis dire, de cette note que Foucault avait laissée, si j'ai bien compris, qui précisait tout de même qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait de parution posthume, de livres posthume. Est-ce que vous pouvez nous situer ce cadre-là?
Oui, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de recommandations, 3 en tout, je ne sais plus, dont une était pas de publication posthume, mais qui pouvait viser, c'est une formule très large, et c'est vrai que la famille, les ayants droit ont considéré que à partir du moment où une parole était publique. Et Foucault savait parfaitement pour prendre simplement l'exemple des cours au Collège de France. Parce que c'est là que le problème a commencé à se poser. Est-ce qu'on publie? Mais il n'y a pas de publication posthume. Foucault lui-même savait parfaitement que circulaient des versions retranscrites. C'est au point où on l'entend à un moment. J'ai participé, comme vous l'avez rappelé, à la transcription des cours. Donc, si vous voulez, il y a des moments où il discute un peu avec les étudiants, et à un moment, on l'entend dire « Ah oui, alors donc, je sais que ça circule, est-ce que je pourrais en récupérer ?» Parce qu'il faudrait que je retravaille. Donc, il savait.
Cours qui ont été enregistrés, hein, donc
oui,
hein, tout
il
ça
était
figure
enregistré,
sur les enregistrements sonores.
C'était transcrit, et il s'est jamais opposé à ça. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le régime de la parole publique, ça n'a rien à voir avec une correspondance privée. Autant on peut imaginer qu'effectivement, ça peut paraître comme étant, j'allais dire, un peu très inélégant ou même indélicat d'aller publier, parce que c'est du Foucault, les lettres qu'il aurait pu écrire à sa mère, etc., etc., et qui peuvent relever vraiment du privé. Autant, me semble-t-il, tout ce qui a été publié relevait largement de la prise de parole publique ou alors de la quand il rédige ses conférences pour les prononcer, le texte, est-ce que c'est un posthume, si vous voulez, vous voyez, je crois.
Oui, bien sûr, on est en fait avec ce livre dans le cadre des prises de parole publiques. Les émissions à la radio font partie de ce grand corpus-là, si on peut dire. Donc c'est une chose qui a déjà été publiée, entre guillemets, non pas sous forme de livre, mais qui a été rendue publique du vivant de Foucault.
Ça a été rendu public, et parce qu'après se pose le problème de la transcription, c'est-à-dire, mais au fond, à quoi bon, puisqu'on peut les écouter ? Vous avez ce phénomène pour Foucault que vous n'avez pas avec tous les auteurs, qui est que la transcription de sa parole donne du beau texte. Et ça, c'est pas du tout évident. C'est une espèce de phénomène littéraire assez mystérieux, et qu'on a vu parfaitement avec les cours au Collège de France. Alors même que l'oralité de ces livres écrits est peut-être un peu moins évidente, c'est-à-dire que si on prononçait les mots et les choses, ou surveiller et punir, ça aurait peut-être pas la même magie, alors même que quand il s'agit de sa parole qui est rendue à l'écrit, ça donne des beaux textes. Le tout premier très grand exemple, ça a été sa leçon au Collège de France, la première leçon au Collège de France, qui est devenue un grand livre, L'ordre du discours, alors que c'était aussi une parole publique. Et je crois qu'on a joué là-dessus, sur cette beauté produite par la transcription.
Et on va revenir à cette écriture spécifique de Foucault, quand c'est une écriture dont il sait qu'elle va être prononcée, notamment dans le cadre de cette grande partie, cette grande catégorie d'émissions qu'on peut appeler les conférences radiophoniques. On va y revenir. Mais un petit mot d'abord, avant de rentrer dans ce détail-là, sur la définition du corpus qui a été celui que vous avez retranscrit donc, dans ce livre. 63 émissions, 1961-1983. Est-ce que c'est l'ensemble des émissions qu'il a données et à quoi correspond cette période ?
C'est la quasi-totalité des émissions radiophoniques. On n'a pas repris une émission qui avait été transcrite et qui est transcrite dans 10 écrits, donc on avait déjà la transcription. Mais en revanche, n'y figurent pas les émissions télévisées. Il y avait quelques émissions télévisées, pas beaucoup, et puis quelques émissions auprès de radios étrangères. Alors c'est d'ailleurs assez curieux, parce que il se trouve que quelques passages de ces émissions de radios étrangères ont été reprises dans des émissions qui se sont faites sur France Culture. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas France Culture.
C'est France. Souvent, la plupart des émissions qu'on lit dans ce livre, oui, hein, c'est beaucoup des émissions de l'ancêtre de France Culture qui s'appelait France 3 Nationale, et
exactement,
qui est devenue France, exactement, Culture en 1963. Et puis quelques émissions de France Inter, mais c'est donc essentiellement l'ORTF et Radio France.
Tout à fait. Et puis à travers des grandes séries d'émissions traditionnelles, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait les Lundis de l'Histoire, il y avait, enfin, je ne les ai plus toutes en tête, mais qui étaient les grandes émissions
Analyse
culturelles
spectrale de l'Occident. Voilà. Les après-midi de France Culture.
Exactement.
On retrouve plusieurs fois ces émissions-là dans les interventions. Vous dessinez une petite typologie dans la présentation que vous faites l'un et l'autre de ce livre. Est-ce qu'on peut donner les grandes catégories d'émissions qu'on retrouve dans ce livre, Frédéric Gros ?
Je peux en donner quelques-unes, oui, et puis vous compléterez, Henri-Paul Fruchot. Moi, je pense évidemment aux conférences parlées, parce que c'est la première grande surprise de ce livre, parce qu'on a des textes qui sont somptueux, véritablement somptueux, et qui portent beaucoup sur la littérature. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le Foucault philosophe des prisons, de la sexualité, mais vraiment un Foucault qui aime la grande littérature. Donc on a des choses sur Rousseau, des choses sur beaucoup d'Artaud, du Raymond Roussel aussi, et puis des grandes références. Donc ça, ça couvre une bonne partie, et c'est assez somptueux. On peut avoir...
Je vous coupe, mais quand on dit conférence parlée, en fait, ce qu'on veut dire, c'est vraiment des émissions écrites pour être... on y entend Foucault sur de longues minutes, de longues heures parfois, qui dit un texte lui-même écrit par lui. C'est ça, en gros.
C'est ça, et ça surprendra sans doute les jeunes générations, mais c'est vrai que pour une génération encore, pour la pour la mienne, au départ, la radio, c'était quelque chose qu'on pouvait écouter pendant des heures, qui pouvait remplacer même la télévision. Il y avait même des séries romancées, il y avait des romans en radio, etc. Donc, c'est véritablement quelque chose comme la mise en scène radiophonique d'un texte. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on écoutait du théâtre à la radio. Ça n'a pas le contenu fortement académique de la conférence qu'on va faire à l'université, mais ça a le côté prise de parole tout à fait. Et c'est vrai que c'est un objet littéraire qui a disparu. C'est intéressant pour ça aussi.
Objet radiophonique qui a disparu du même coup d'ailleurs.
C'est tout à fait singulier. Il peut y avoir des choses très très courtes, par exemple, sur l'affaire Joffre, sur Bukowski, c'est-à-dire des choses qui vont être des interventions très précises, très méticuleuses sur un fait divers d'actualité. Alors là, ça va être plus France Inter, etc.
Dans les journaux, hein, ça c'est une deuxième catégorie d'intervention. Il est invité par des journalistes à s'exprimer sur... souvent sur une affaire.
Sur une affaire, il y a une troisième catégorie qui est relativement bien présenté ici, qui est évidemment l'entretien à propos d'une parution ou d'une réédition, quand il réédite l'histoire de la folie chez Gallimard en 72, quand il fait paraître La volonté de savoir en 76, ça donne lieu à une émission. Donc là, c'est un peu plus classique, hein, c'est des choses que France Culture fait là encore beaucoup. Et puis, il y a ce qui relève du espèce d'entretien à plusieurs, je ne sais pas comment vous appelleriez ça, un débat un peu où on découvre un Foucault qui doit tenter justement de donner sa couleur à un entretien. Et il est souvent entouré quand même par des grandes pointures. Hein. Ça peut être Jean Daniel, ça peut être Régis Debray, ça peut être Jacques Le Goff, Jean Delumeau, etc.
Où il intervient sur des sujets qui sont plus ou moins proches de ses préoccupations. C'est-à-dire qu'il y a une très grande cohérence dans ses émissions. Hein. Se dégage de ce livre à quel point les sujets qui intéressent Foucault, qui le préoccupent, y compris quand c'est de la littérature, on peut tracer des liens entre cela et l'œuvre publiée par ailleurs. Mais il y a aussi des choses assez surprenantes dans cette catégorie-là.
Oui, pas toujours très proche, effectivement. Je pense notamment à une émission sur les gladiateurs romains où on n'attendrait pas Michel Foucault. Lui-même dit d'ailleurs quelque part qu'il ne s'y attendait pas non plus. Il en a parlé simplement parce que l'auteur de ce livre, Georges Ville, était son condisciple à Normale Sup. Il était décédé dans un accident d'auto et que l'ouvrage avait été édité par Paul Venn, avec qui Foucault entretenait des relations très, très fortes.
Ouais.
Mais alors effectivement aussi, il y avait quand même une chose qui pouvait intéresser Foucault, ça concerne plutôt son intérêt à la fin de sa vie pour l'Antiquité, pour les penseurs de l'Antiquité et les premiers penseurs chrétiens, c'est que aussi bien d'ailleurs les penseurs de l'Antiquité, les penseurs païens de l'Antiquité, que les premiers pères de l'Église, quand ils parlaient des combats de gladiateurs, se fichaient complètement des gladiateurs. Les gladiateurs pouvaient s'entretuer. En revanche, c'était immoral de les regarder. C'était pas d'aller se battre au milieu de l'arène c'était en fait tout le problème qui d'ailleurs est resté longtemps présent pour l'Église de l'immoralité du théâtre, de l'immoralité du spectacle, et qui a duré jusqu'au, j'allais dire, 17e, 18e siècle, hein. Il faut se souvenir de Molière ne pouvant pas être enterré en terre chrétienne.
Frédéric Gros, vous avez dit à la question « mais pourquoi faire paraître ces entretiens ? Après tout, ils étaient disponibles. » Alors, je précise qu'une grande partie de ces entretiens sont disponibles à la réécoute sur le site de France Culture grâce au formidable travail fait par les programmes des Nuits de France Culture, hein, qui met en avant, ressort des archives et rediffuse des entretiens et de très nombreux entretiens avec Michel Foucault. On mettra évidemment en lien sur le site de l'émission ces entretiens-là. Mais enfin, tous ne sont pas disponibles à l'écoute. Et donc, ils sont disponibles aux chercheurs qui ont accès au fond de l'INA, mais pas à tout le monde. Et donc, ça permet aussi, bien sûr, à tout un chacun de les lire dans ce livre. Je voudrais qu'on écoute une question que vous adresse Édouard, qui est auditeur de l'émission et qui a lu ce livre et qui porte notamment sur son bornage chronologique, si je puis dire.
Bonjour Henri-Paul Fruchot, bonjour Frédéric Gros, bonjour les amis du Book Club. Je viens de me replonger dans les entretiens radiophoniques de 1961 à 1983 de Michel Foucault. Et je voulais vous dire merci pour cet incroyable travail d'édition. C'est vraiment des textes, des entretiens assez fous et particulièrement Rousseau, juge de Jean-Jacques. Ça sort de ce qu'on a l'habitude d'entendre. D'ailleurs, une question me vient. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans ces entretiens? Est-ce qu'il y a un déplacement de la pensée de Foucault dans sa manière d'aborder les thèmes? Voilà, je vous remercie pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Edouard. Qui veut répondre sur cette question, sur la question de l'évolution, Henri-Paul Fruchot?
Il y a peut-être un déplacement, il y a plusieurs déplacements. Le premier déplacement, c'est que Foucault est malgré tout beaucoup plus présent à la radio dans les premières années que dans les dernières années de sa vie.
Dans les années 60.
Alors ça s'explique par deux raisons. C'est que d'abord les conférences radiophoniques, c'est quelque chose qu'il a pratiqué dans les, disons, jusqu'à la fin des années 60. Je crois que les dernières, ça doit dater de 66 ou quelque chose comme ça. Après, il n'y a plus vraiment de conférences radiophoniques.
Oui, c'est ça, ça ne se fait plus. Hein? Ce format-là n'existe plus.
Peut-être que ça ne se fait plus d'ailleurs. Enfin,
disparaît peu à peu.
En tout cas, il n'y en a plus après, je crois que les dernières, c'est 66. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à partir de 76, c'est-à-dire la publication de l'histoire de la sexualité, il ne publie rien jusqu'à 84. Hein. Les deux volumes suivants de l'histoire de la sexualité ont été publiés le mois 15 jours ou un mois avant
sa mort,
son décès.
En 84.
Donc, le prétexte de l'interview à propos de la parution d'un livre n'existait pas. Et de ce fait, il y a quand même beaucoup moins d'émissions. Et ça, alors, ça a un effet, notamment que l'évolution de la pensée du dernier Foucault, notamment telle qu'on la voit à travers les cours du Collège de France. Je pense notamment à la période de la parésia, la période du souci de soi, la période du gouvernement de soi et des autres, est relativement très peu présente. Hein, c'est peut-être cette période-là qui est...
Frédéric Gros, sur cette question, on lisait le vous avez fait le choix d'ailleurs hein, de respecter la chronologie.
Oui, tout à fait.
On aurait pu imaginer des entrées thématiques, mais c'est la chronologie que vous avez voulu suivre dans le livre. Est-ce que si on lisait de la première page à la toute dernière quelques milliers de pages plus loin, on verrait comme ça se dessiner en creux quelque chose comme l'évolution intellectuelle?
Ah oui, bien sûr, une évolution dans la modalité de la prise de parole, une évolution dans le ton, qu'on pourrait dire curieuse, paradoxale, mais qui s'explique assez bien. Dans la première période, le ton de Foucault est un ton très académique, un ton qui est, j'allais dire, où il demeure dans un registre qui est très maîtrisé, où il multiplie des références à la grande littérature et qui sont des références culturellement très chargées et très fortes. Et la rupture qui se fait en 1970 avec l'élection au Collège de France, c'est là qu'on peut penser que c'est paradoxal parce que c'est au moment où il accède précisément à une espèce de place institutionnelle, à la fois institutionnelle, indéboulonnable et qui est quelque chose comme le summum de l'académie, que sa prise de parole devient beaucoup plus brute. D'ailleurs, dans le montage que vous aviez fait juste avant, j'ai bien aimé cet auditeur qui parle de pensée brute. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose où il accepte d'être moins maîtrisé. Il est beaucoup plus dans la provocation, notamment avec Jacques Chancel, par exemple, ou avec d'autres. Il est vraiment dans, il a un humour qui devient un peu un peu plus grinçant et beaucoup moins velouté. Donc oui, je dirais, je ne sais pas si Henri Paul serait d'accord, mais en tout cas moi je sens cette évolution qui va d'une prise de parole très maîtrisée, très académique, avec un langage très très convenable, à quelque chose d'un peu plus brut et où il joue plus dans la provocation.
Il y a quelque chose qui se libère en
oui,
somme.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui, il se libère.
On va l'entendre et on va continuer à parler de ce livre avec vous, Henri-Paul Fruchot et Frédéric Gros. Mais avant cela, on va faire ce qu'on fait à la radio parfois et à l'époque déjà, c'est-à-dire écouter une chanson. Elle est extraite du tout nouvel album d'un groupe américain qui s'appelle Daughter of Swords.
Smile so big that your eyes crinkle back in your face. Love so large you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Old tank top with the comic book in your hand. Wild hair. Always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang, bang, thanks, legs gave back to your soul. Tube suck underwear, feel like I'm already old. Pipe down brain, I can hear you with your same old thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. One, two, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Finalement, vous savez, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire appartenant, né dans la petite bourgeoisie de province, est-ce qu'on n'a pas été élevé, biberonné au savoir, avant même l'école primaire, tout un milieu dans lequel la règle d'existence, la règle de promotion, c'était d'en savoir un peu plus que l'autre, d'être un petit peu meilleur en classe. J'imagine même de mieux sucer son biberon qu'un autre, d'avoir fait ses premiers pas avant un autre, etc. Le concours, la compétition, en faire un peu plus que l'autre, être le premier. Quelqu'un comme moi, on a toujours vécu là-dedans. Alors, je suis pas arrivé au savoir. J'ai toujours été dans le savoir. J'y ai barboté.
Vous avez eu de la chance.
Est-ce que c'est de la chance ? Et je vous dirais, si je dis que j'ai barboté dans le savoir, c'est dans la mesure où, au fond, j'aimerais plutôt essayer de m'en débarrasser. Mais comme il n'est pas possible de se débarrasser de son savoir, tâcher de trouver d'autres voies, de trouver la diagonale, de biaiser, de trouver enfin quelque chose qui ne fait pas partie du savoir, mais qui mériterait de faire partie du savoir.
Michel Foucault, micro de Jacques Chancel dans la fameuse émission de France Inter Radioscopie. C'était le 10 mars 1975. C'est un extrait de l'une des 63 émissions retranscrites dans le volume Michel Foucault, Entretien radiophonique 1961-1983, qui a paru dans une coédition Flammarion Vrin et l'Institut National de l'Audiovisuel, livre dont vous avez dirigé l'édition Henri-Paul Fruchot et Frédéric Gros. On vous retrouve tous les deux pour en parler. Cette archive pour commencer à explorer la matière matière même hein, de ces textes qui sont donc ces émissions. Il me semble que cette émission-là, Radioscopie, entretien assez célèbre, entretien qui est souvent rediffusé aujourd'hui encore dans les émissions qu'on consacre à Michel Foucault, par exemple sur notre antenne, sur France Culture. Il me semble que dans cette émission-là et dans cet extrait-là se joue quelque chose qui revient pas si souvent finalement dans les émissions où intervenait Foucault, qui est une forme de récit de soi. Tout d'un coup, Foucault nous raconte un petit peu le milieu d'où il vient. Est-ce que ça, c'est assez singulier, Frédéric Gros ?
Alors, c'est vrai, déjà, qu'il s'agit de Radioscopie, c'était France Inter, c'était une émission de très grande écoute. Et c'est vrai que les questions ne sont pas tout à fait les mêmes que ce qu'il pouvait entendre quand il était dans Analyse spectrale de l'Occident ou d'autres émissions de France Culture. Et ce sont des questions qui sont plus directes. Donc c'est vrai que c'est, pour moi, c'est une des émissions que je préfère ou un des passages que vraiment je préfère parce que Foucault, alors on l'a très bien entendu ici, tente justement d'échapper à cette espèce de statut qui est en train de lui faire Jacques Chancel en lui disant « Mais vous savez, vous êtes un très grand professeur au Collège de France et vous nous apprenez tellement de choses, etc. »
Il passe la pommade, Jacques Chancel.
Voilà, il passe la pommade et en même temps, en passant la pommade, il commence à faire une différence entre les gens cultivés qui aiment le savoir dispensé par Foucault et d'autres plus ignorants. Et Foucault, ici, j'allais dire par une espèce de retour de bâton, mais en même temps très délicat, lui explique tout bonnement qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de diplôme, et d'ailleurs les diplômes ça ne sert à rien du tout, et ceux qui les ont le savent très bien, à part évidemment à garantir des hiérarchies sociales, et que ces gens-là ont une intelligence sur l'actualité, sur les affaires qui se passent, sans doute peut-être même plus aigu que les autres qui, précisément, croient savoir et donc se servent de leur savoir au lieu de regarder ce qui se passe. Et Jacques Chancel, je ne sais pas si Henri Paul sera d'accord avec moi, se trouve totalement déstabilisé par cette manière dont Foucault refuse de rester dans l'étiquette qui est en train de dessiner.
Il refuse le présupposé, au fond, qu'il y a derrière les questions de Jacques Chancel, la case dans laquelle Jacques Chancel voudrait l'enfermer, mais en même temps, ce statut dont vous parlez, il correspond à quelque chose de réel. En 1975, Michel Foucault, c'est étonnant pour nous d'imaginer qu'un philosophe puisse être reçu à une émission qui était une émission de très très grande écoute hein, sur France Inter, mais il a aussi déjà le statut d'une célébrité, est-ce qu'on peut dire ça à ce moment-là?
Ah oui, oui.
Immense.
En 75, oui, ça, la célébrité commence avec les mots et les choses, mais qui est une célébrité qui, parce que c'est un phénomène d'édition assez phénoménal et presque incompréhensible en regard de la, on peut le dire, de la difficulté intrinsèque et de l'exigence même du livre. Et ensuite, c'est porté par Surveiller et punir.
Ce qu'on a entendu, il me semble aussi dans cette archive, et c'est quelque chose qui revient, c'est une forme de charme, de séduction de la manière de parler de Foucault. Qui, je veux dire, charme, c'est l'effet qu'on a quand on l'écoute. Dans le choix des termes, notamment, par exemple, cette expression « j'ai été biberonné au savoir », il y a une inventivité de la langue, y compris dans le cadre d'émissions qui ne sont pas des émissions écrites, qui est assez saisissante, Henri-Paul Fruchot.
Ah ben moi, le souvenir que j'ai, quand je passais notamment les vacances en Poitou, à Vendeuve du Poitou avec lui, c'était effectivement cette espèce de...
Pardon, je vous indiquais de vous rapprocher un petit peu du micro.
De créativité extraordinaire quand il parlait, par exemple, il nous disait pas tais-toi, il nous disait ferme ta boîte à Babil. Et c'était tout le temps des choses de ce genre.
Ça, c'était dans la vie privée aussi.
Dans la vie privée, ça nous faisait tordre de rire, hein.
On va écouter une autre archive d'une autre catégorie d'émissions. Nous sommes le 7 décembre 1966. Robert Valette avait eu l'idée de consacrer une série d'émissions au rapport entre l'utopie et la littérature et avait dans ce cadre invité plusieurs écrivains à proposer une réflexion sur le sujet. Michel Foucault s'y était collé. On va écouter un extrait de cette émission qui s'appelait « L'heure de culture française », titrée en l'occurrence « Les utopies réelles ou lieux et autres lieux ». On est là dans le cadre de ce qu'on a appelé tout à l'heure les conférences radiophoniques.
Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe dans l'espace qu'il occupe, où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques et dans le temps où il s'affaire, des moments uchroniques. Voici ce que je veux dire. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont en quelque sorte absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les compenser, à les neutraliser, ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, eh bien, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin. Bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore, la tente d'Indien dressée au milieu du grenier. Ou encore, c'est le grand lit des parents. La société adulte a organisé elle-même, et bien avant les enfants, ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ces lieux réels hors de tous les lieux. Par exemple, il y a les jardins, les cimetières, il y a les asiles, il y a les maisons closes, il y a les prisons, il y a les villages du club méditerranéen, et bien d'autres. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appellerait, elle s'appelle déjà l'hétérotopologie.
Michel Foucault rêve d'une science, l'hétérotopologie, dit-il, qui les étudierait, ces lieux, ces autres lieux. C'est le terme que recouvre ce mot qu'il invente, d'hétérotopie. Qu'est-ce qui se donne à entendre dans une émission comme celle-là, Frédéric Gros, et qu'on retrouve à la lecture de ce texte ?
Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui appartient effectivement à l'écoute, c'est un art de l'articulation qui est presque assez bouleversant, parce qu'effectivement il y a toute une maîtrise de la parole, de son flux verbal, une manière de faire jouer les attentes, les respirations, de faire baisser et d'augmenter la voix. Alors ça, évidemment, on va pas retrouver ça complètement dans l'écrit, mais tout de même ça reste sous forme de traces. On a quelque chose de très théâtral, et c'est vrai que les textes de Foucault font partie des rares qui ont pu être investis par des compagnies théâtrales qui ont été jouées. Alors que ce soit ce texte sur les hétérotopies ou même l'ordre du discours, c'est vrai que un certain nombre de compagnies théâtrales contemporaines se sont fait une joie précisément de faire des performances, des performances théâtrales à partir de cette parole. Et ce qui reste quand même dans l'écrit, et qui est un élément très important pour Foucault, il le dit à plusieurs reprises, c'est qu'au fond, une chose est de dire un certain nombre de vérités, de faire découvrir un certain nombre de dimensions, peut-être pas complètement évidentes. Autre chose est de le faire en donnant du plaisir à celui qui le lit ou à celui qui l'écoute. Et cette dimension du plaisir, qui est le plaisir de la pensée, qui est le plaisir de lire de belles choses, parce qu'effectivement, le mode dans lequel sont présentées ces pensées nous entraîne, fait partie de ce qu'il appelle la grande politesse du penseur. C'est-à-dire, il y a des penseurs qui sont impolis, au sens où ils vont vous refourguer des thèses philosophiques, des démonstrations spéculatives, mais pris dans un langage absolument impossible. Et puis, il y a ce qu'il appelle l'élégance, qui est peut-être une élégance toute française, après tout, parce que c'est vrai que nos grands penseurs de Descartes à Foucault, Bergson, ont été quand même souvent, en passant même par Merleau-Ponty, de grands littérateurs, en tout cas de grands stylistes. Et ça fait partie du plaisir qui est à donner. Donc, alors, vous avez cette histoire des espaces autres, etc. Mais à lire, à entendre, ça donne un certain plaisir. Oui.
Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois une notion extrêmement raffinée, assez complexe au fond, cette idée de l'hétérotopie, et dans la manière dont Foucault parle, ce qu'on vient d'entendre, c'est absolument limpide, oui. Henri-Paul Fruchot.
Écoutez, moi, il y a une question que je me suis toujours posée. C'est si la maison du Poitou, la maison de Vendeuvre où il passait ses vacances, n'était pas finalement une sorte d'hétérotopie. C'était par opposition à Paris qui était le lieu du travail de recherche en bibliothèque, le lieu des petits conflits universitaires, des querelles, des trucs comme ça. C'était le moment de la paix, de la tranquillité, et celui où, finalement, il rédigeait les versions définitives de ses livres.
Ouais, c'est là où il écrivait, oui.
C'est là où il... Peut-être pas tous, mais il a écrit beaucoup, il y a terminé beaucoup de ses livres.
Et puis, cette notion d'hétérotopie, on l'entendait là, dans ce passage-là. Il y a quand même aussi, on entend très bien, c'est ce que je disais, j'essayais de dire tout à l'heure en parlant de cohérence, c'est-à-dire qu'on voit très bien de quelle façon, dans son travail philosophique, lui qui a tant travaillé, écrit sur l'asile, sur les prisons, qui sont précisément des hétérotopies. Donc, c'est, par exemple, cette conférence-là, elle est très profondément liée à l'ensemble de sa réflexion philosophique, Frédéric.
Oui, tout à fait. Vous avez chez Foucault une extraordinaire sensibilité à l'espace, ou plutôt aux espaces pluriels. C'est-à-dire que la manière dont il peut penser, dont il peut réfléchir, ça peut procéder souvent par des espèces de localisation, de mise en espace. Et d'ailleurs, c'est assez fou. Si vous prenez les manuscrits même de ces cours, vous avez une mise en espace tout à fait particulière et j'allais dire presque tracé au cordeau, où quand il écrit, il opère un certain nombre de décalages, il crée des marges, et à chaque marge correspond un degré de pensée tout à fait particulier, et ça se retrouve évidemment dans cette très belle conférence sur les hétérotopies, qui sont ces espaces secrets qui peuvent être des espaces d'écriture, de lecture, de plaisir, etc.
Et puis cette limpidité dont on a parlé, cette délicatesse, cette élégance, disiez-vous, Frédéric Gros, c'est aussi tout simplement l'élégance du professeur Foucault, qui a le souci d'être compris par son élève. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est juste de le dire comme ça?
C'est l'élégance du professeur, et aussi c'est un certain plaisir de la prise de parole. Il y a cette conférence que vous citiez en disant que c'est là effectivement où on fait entendre un extrait de Radio-Canada, qui est une conférence qui est une émission qui s'appelle Face à la folie, où il parle de la prise de parole, de l'intervention, et où il dit, alors d'abord, que précisément cette prise de parole, pour lui, il l'a longtemps ressenti dans son enfance comme étant empêché, parce qu'il revient souvent sur l'idée que les enfants n'avaient pas le droit de parler, et que avec le métier de professeur, il a découvert l'extraordinaire jouissance du fait qu'il était payé pour prendre la parole et pour la donner. C'est-à-dire qu'en au-delà justement de cet exercice, j'allais dire de l'écriture qu'il a tendance à présenter quand même sous un aspect très fastidieux, on écrit, on réécrit, etc. On a l'impression, au moment de la prise de parole et du cours, de quelque chose comme une délivrance, une légèreté où s'exprime un réel plaisir.
Un mot là-dessus, Henri-Paul Fruchot, je vous voyais acquiescer.
Oui, ce que dit Frédéric me rappelle un souvenir tout à fait. Quand j'étais gamin et que je passais mes vacances à Poitiers, effectivement, à table, les enfants n'avaient pas le droit d'ouvrir la bouche. Hein, on répondait aux questions qu'on posait, mais on ne prenait jamais l'initiative. Et je pense que Michel avait connu ça aussi bien avant moi, bien avant nous.
Hein, et il y a quelque chose à contrario qui s'entend.
Et ça lui était resté.
Oui, mais il donne même une dimension politique, parce qu'il va dire dans cette émission que 68, pour lui, c'est le moment de la prise de parole.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que précisément, le grand bouleversement des années 70, c'est qu'un certain nombre, parce que évidemment, cet exemple des enfants qui n'ont pas le droit de parler à table, ça mange pas de pain, mais quand on parle de la parole des femmes, quand on parle de la parole des ouvriers, etc., c'est quand même autre chose, et il dit que cette libération, il l'accompagne, lui, par cette libération de la parole, ce qui fait que parfois, il y a cette fameuse émission, je crois que c'est avec Bernard Pivot, où il dit, écoutez, vous m'avez invité pour mon livre, je ne vais pas parler de mon livre, mais je profite du fait que je suis là pour laisser la parole à un dissident soviétique, etc.
À Bukowski, oui, c'est l'émission sur Bukowski.
Il est 16h, après-midi de France Culture, et nous poursuivons l'expérience que nous avons engagée la semaine dernière. Michel Foucault, écrivain, critique, philosophe, professeur au Collège de France, a accepté de venir donc à ce micro jouer un petit peu le rôle d'un journaliste pour interviewer Jacques Almira sur son premier livre, Le Voyage à Nocratis, paru dans la collection Le Chemin, chez Gallimard. Alors, selon la règle du jeu, Michel Foucault, je vous laisse face à Jacques Almira pour donc l'interroger sur ce premier ouvrage.
Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez qu'on joue le jeu de l'interview ou qu'on joue au jeu de l'interview ?
Plutôt au jeu de l'interview.
On joue au jeu, hein ?
Oui, oui.
Bon, alors, la première chose, on va mettre Pierre Descargues en boîte et on va lui demander... Dites-moi, c'est drôle d'interviewer quelqu'un ?
C'est merveilleux, je crois que c'est une façon, c'est la façon la plus... la meilleure de se cultiver.
Alors, vous savez tout un tas de choses comme ça.
Oui, depuis 25 ans, j'apprends pas mal de choses. C'est passionnant.
Mais non, mais réellement, alors là, plaisanterie mise à part, ça sert à quoi, une interview ? Enfin, mettons à part la question de la publicité qui est évidente. Là, on est là pour faire de la publicité, on est payé pour, c'est bien connu, etc. Bon, mais ceci mise à part, ça sert à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue dans le genre de l'interview. C'est tout de même le côté, enfin, l'interview, c'est un peu à mi-chemin entre l'examen scolaire et puis l'examen médical.
Mais bah écoutez, je crois que le bon examen médical, en tout cas, c'est quand le médecin n'existe pas et que c'est le malade qui se raconte. Alors là, c'est formidable, il est vivant devant vous. Qu'est-ce que c'est qu'un bon interview ? C'est quand tout d'un coup quelqu'un se met à parler et qu'on a plus de temps en temps qu'à lancer un mot et ceci, une question peut-être, et la personne répond et petit à petit l'intervieweur disparaît complètement, il n'est plus là. Et c'est quelqu'un qui parle, qui se raconte. Vous savez, la radio, enfin, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on dit peut-être n'importe quoi, mais on est quand même présent malgré soi. J'ai répondu.
Ah, mais très bien. Bon, alors, il y a plusieurs sortes d'intervieweurs. Il y a l'intervieweur compétent, très sûr de lui, qui sait tout, puisqu'il a déjà eu le temps, dans le couloir, là, qui conduit jusqu'au studio, de lire au moins le titre du livre. Donc, il sait le titre du livre, il n'a peut-être pas encore très présent à l'esprit le nom de l'auteur, mais il sait comment s'appelle le livre. Alors, il regarde dans les yeux l'interviewé. Et il lui dit, eh bien, écoutez, monsieur Jacques Almira, vous venez d'écrire un livre très important qui s'appelle « Le voyage à Nocratis ». Voudriez-vous nous dire et expliquer au public de l'ORTF pourquoi le voyage...
Radio France, si vous voulez maintenant.
Ah oui, Radio France, pardon. Et pourquoi le voyage et pourquoi à Nocratis ?
Les après-midi de France Culture, le 26 mars 1976, émission présentée par Pierre Descargues et Yves Loiseau, avec la contribution ce jour-là donc de Michel Foucault pour interroger Jacques Almira sur son premier roman, merveilleux exercice de réflexivité radiophonique, dans lequel on découvre un Foucault presque cabot, un Foucault comédien, mais derrière l'humour, il me semble qu'il y a quelque chose de très foucaldien profondément dans ce moment, hein, la manière dont il interroge l'ordre du discours, on pourrait dire les conditions de production d'un discours médiatique, en l'occurrence Frédéric Gros, en quelques mots, parce qu'on arrive déjà hélas au terme de cette conversation.
Oui, il y a chez Foucault, dans cette posture-là, une déstabilisation, une puissance de déstabilisation sans aucune agressivité.
Exactement.
Et c'est précisément ce qu'on appelle la posture socratique. C'est-à-dire cette absence, cette, pour prendre un mot à la mode, cette bienveillance, cette absence d'agressivité et en même temps cette manière de dire « il faudrait quand même que vous vous interrogiez sur ce que vous êtes en train de faire », je trouve que c'est vraiment la manière dont il revient à cet héritage socratique qui définit le cœur vibrant de la philosophie quand elle est moins écriture de livre que prise de parole et qu'intervention sur un espace public.
Dans l'ensemble du corpus de ces 63 émissions, Henri-Paul Fruchot, est-ce que vous sauriez citer l'une de celles, parmi celles que vous avez découvertes peut-être à l'occasion de la conception de ce livre, qui vous a le plus surpris ?
Surpris, alors c'est peut-être...
Ou ému,
comme vous voulez. C'est peut-être la série d'émissions sur la folie. Les cinq émissions sur la folie, que je vois un peu comme un complément de l'histoire de la folie en réalité, mais où Foucault, relie la folie à travers la littérature. Ce qu'il fait un peu, puisque la littérature est très présente dans l'histoire de la folie, mais là c'est vraiment la littérature. C'est vraiment des conférences consacrées à la littérature de la folie dans ses différentes formes. Et je dois dire, c'est vraiment un ensemble que je trouve tout à fait admirable et un de ceux que je préfère.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et comme tous les jeudis à cette heure-ci, on prend des nouvelles du livre hors de nos frontières grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, on se rend en Irlande, d'où vous nous parlez en direct, Clémence Pénard. Bonjour Clémence.
Bonjour Mathilde.
Si les Irlandais ne devaient citer qu'une seule écrivaine contemporaine, ce serait elle, Edna O'Brien, un monument de la littérature qui a défié l'Irlande conservatrice du XXe siècle. Elle est décédée l'année dernière à l'âge de 93 ans et un documentaire intitulé Blue Road, The Edna O'Brien Story vient aujourd'hui lui rendre hommage.
Oui, un documentaire sorti en salle fin janvier en Irlande et demain, vendredi, au Royaume-Uni. Mais en France, il faudra patienter encore un peu. Et bien que récent, il est déjà légendaire, car on y retrouve le dernier témoignage d'Edna O'Brien. La réalisatrice Sinéad O'Shea enregistre leur dernière entrevue en avril 2024, 3 mois seulement avant la mort d'Edna. Une discussion sincère pendant laquelle cette écrivaine libre et rebelle revient sur sa carrière fructueuse qui commence en 1960, la jeune Edna O'Brien publie alors The Country Girls, premier tome d'une trilogie au succès fulgurant. On y suit deux adolescentes d'une petite ville de campagne qui fuient le couvent pour Dublin et découvrent les premiers frissons du désir et de l'émancipation.
Tout va alors très vite pour Edna, elle est propulsée au rang de star.
Oui et non, à l'étranger, elle devient bien le phénomène littéraire, mais dans son Irlande natale conservatrice, elle est traitée en paria. Ses livres scandalisent tellement l'opinion catholique qu'ils sont brûlés. Malgré la censure, les Irlandais et Irlandaises se passent ses livres en secret sous le manteau et même clandestinement depuis l'Angleterre pour les partager avec leurs proches restés au pays.
Depuis l'Angleterre, car Edna O'Brien s'est installée à Londres avec son mari, écrivain lui aussi.
Oui, et ce que nous raconte le documentaire Blue Roads, c'est aussi cette histoire de misogynie. Ce n'est un secret pour personne. Edna O'Brien a dû attendre bien trop longtemps avant de recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. À l'époque, nombreux sont ceux qui la traitent avec mépris. Le Dublin littéraire est alors une chasse gardée masculine et le plus envieux d'entre eux n'est autre que son propre mari.
Alors, 2 enfants et un divorce plus tard, Clémence, Edna O'Brien achète une maison à Chelsea où elle organise des soirées animées.
Absolument, Marianne Faithfull, Jane Fonda, Marlon Brando, Paul McCartney, toutes les stars sont de la partie, mais ça ne l'empêche pas d'écrire, toujours écrire, à raison d'un livre par an. Et le documentaire met en évidence la longévité de sa carrière avec des romans marquants. À 85 ans, elle écrit The Little Red Chairs sur les horreurs du conflit bosniaque. Son tout dernier roman publié, Girl, est lui basé sur des entretiens qu'elle a menés avec des survivantes de Boko Haram au Nigeria.
Ce qui fait la richesse de ce documentaire, Clémence, ce sont aussi de nombreuses archives et la lecture inédite de passages tirés de ses journaux intimes.
En effet, c'est un documentaire où l'on ressent aussi les soubresauts de cette femme libre et affranchie des diktats de l'époque, sa liaison avec un éminent politicien britannique dont le nom reste inconnu, la rupture brutale qui bouleverse à la fois sa productivité et ses finances personnelles. Edna O'Brien y perdit une fortune, mais elle vécut pour le meilleur et pour le pire. C'était la route d'Edna O'Brien qu'elle a tracée selon ses propres règles.
Un très grand merci Clémence Pénard. Je précise que les livres d'Edna O'Brien sont publiés en France aux éditions Sabine Vespizer, la trilogie Country Girls notamment, dans une traduction de Léo Dillet. Et je vous invite à ce sujet à écouter l'émission que le Book Club avait consacrée à ce livre culte avec son éditrice et la comédienne Emmanuelle DeVos. Référence à retrouver sur le site de cette chronique Lecture sans frontières sur l'application et sur l'application pardon, Radio France. Et comme chaque jour, en fin d'émission, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales grâce à vos suggestions. Si dans un livre, vous repérez un passage qui mentionne un air de musique, prenez-le en photo et envoyez-le nous à l'adresse mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram de l'émission. L'émission, on pioche parmi vos suggestions chaque jour pour nous quitter en chanson. On doit la trouvaille du jour à Ludivine qui nous a envoyé ce passage du roman de Chloé Delhomme paru en 2020 aux éditions du Seuil et qui s'appelle Cœur synthétique. Dans le jardin règne le silence, à peine un pépiment d'oiseau. Adélaïde trouve que la campagne, ça a la bande-son d'un décès. Judith a pris ses petites enceintes, elles peuvent y brancher Niagara. Clotilde se soucie des besoins d'Adélaïde et va lui chercher un coca. Adélaïde se sent toute vide et elle se retient de pleurer. La voix de la chanteuse de Niagara entonne le couplet de Soleil d'hiver. Elle n'était pas du genre à se faire remarquer, c'était jamais elle qu'on invitait à danser. Adélaïde regarde Judith, lui dit « Je vais crever toute seule ». Judith tressaille, « Ne dis pas ça ». Elle ajoute des tas de mots qui se cognent dans sa bouche, des mots très maladroits attrapés dans l'urgence, comme « espoir » ou « rencontre », qui sonne tellement bancal qu'elle en a honte. Adélaïde fixe Judith, répète « Je vais crever toute seule ». Très grand merci à tous les deux, Frédéric Gros et Henri-Paul Fruchot, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce beau livre Michel Foucault, Entretien radiophonique 1961-1983. Il a paru dans une coédition Flammarion, Vrin et l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est une merveilleuse porte d'entrée aussi dans la pensée de Michel Foucault. Et c'est un livre qui donne très envie, bien sûr, d'écouter la radio, d'écouter des archives. Je signale que beaucoup des émissions qui sont retranscrites dans ce livre
livres sont disponibles à la réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France grâce au merveilleux travail fourni par l'équipe des Nuits de France Culture. Renvoie vers toutes ces émissions sur le site du Book Club, bien entendu. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vivien Demeyer, au son Noé Chabanne. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club, Lou Quevauvillier, Noé Margas, Jeanne Aléos, Léa Weissgruss et Alexandre Alaï-Begovic. Cette émission, comme toutes les autres, se réécoute sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.